Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Marie Dalquier, avec à la prise de son Benjamin Vignal. Aujourd'hui, nous recevons Alain Cugnot pour parler de l'entomologie comme art de philosopher. Alain Cugnot, bonjour.
Bonjour.
Lélie, bonjour.
Bonjour Frédéric. Et j'ai envie de dire bonjour messieurs Alain Cugnot, puisque vous êtes de votre propre aveu deux personnes en une. Donc voilà, je vous annonce que nous recevons Alain Cugnot et Alain Cugnot. Vous êtes naturaliste et philosophe. Et bien que vous le souligniez en fait dans votre dernier ouvrage pour lequel nous vous recevons, il y a une espèce de bizarre contradiction à assumer ces deux peaux, littéralement, à être ces deux personnages à la fois. Vous dites justement dans La libellule et le philosophe que le petit frère jumeau naturaliste a été jusqu'ici l'objet de toute la sollicitude du grand frère philosophe. Donc tous les deux sont Alain Cugnot, bien sûr. Il conviendrait quand même de rappeler à quel point leurs relations ont pu être conflictuelles, voire assassines. Périodiquement, le philosophe a prémédité la suppression du naturaliste et chaque fois qu'il a cru y être parvenu, il en a éprouvé un grand sentiment de liberté, l'impression d'avoir mûri et d'avoir enfin posé le pied sur terre, qui était vraiment la sienne, de s'être débarrassé d'un traître. Alors, heureusement, vous n'avez pas vraiment éliminé ni le philosophe ni le naturaliste, puisque vous êtes ici justement pour nous parler de ce sujet étrange entre tous, qui consiste à apprendre des leçons du vol des libellules et plus globalement de l'étude de ces êtres étranges et beaux que sont les libellules. En fait, je voudrais dire que quand même l'exercice de la présentation biographique me force à dire que votre être social est d'être quand même avant tout philosophe. Et vous avez longtemps, enfin, je ne sais pas philosophe, en tout cas professeur de philosophie, puisque vous avez enseigné la philosophie en Cagne et au lycée Lacanale de Sceaux. Vous êtes professeur au Centre Sèvres et au Collège des Bernardins, quand même, ça c'est très sérieux, et l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment « L'existence du mal »,« La blessure amoureuse » aux éditions du Seuil, et d'ailleurs très récemment aux éditions de l'Iconoclaste de « Comment faut-il s'y prendre pour vivre ?» Donc, vous êtes vraiment un philosophe, mais enfin, vous êtes aussi vraiment un odanotologue.
Exactement. Difficile à dire, quand même.
Voilà, hein. Difficile à dire, mais je me suis exercée, mais expliquez-nous ce que c'est.
Eh bien, c'est étudier les libellules, puisque les libellules s'appellent des odonates. Et en fait, non, on n'étudie pas les libellules. On se laisse séduire par elles, entraîner par elles, et puis on découvre que c'est un monde absolument extraordinaire que celui des marécages, des cours d'eau et de toutes ces bestioles qui vivent une vie compliquée, dangereuse, mais merveilleuse. Il y a deux grandes catégories de libellules. Mais le mot de libellule est tellement beau, enfin c'est un des plus beaux mots de la langue française, le mot libellule a recouvert les deux espèces de libellules et on réserve demoiselles pour peut-être pour les petites libellules bleues du bord des rivières, qui sont les vraies demoiselles. Voilà, c'est un peu compliqué, mais on s'y repère quand même.
Alors, avant que vous nous expliquiez comment les libellules vous aident à philosopher, d'où vous vient cette passion pour les libellules? C'était dans l'enfance, j'imagine? Vous étiez à la campagne?
D'un amour des animaux. D'un amour des animaux qui m'a pris extrêmement tôt. Je suis né à Paris, hein, mais enfin, j'ai beaucoup fréquenté mes grands-parents en Charente-Limousine. Donc, j'ai adoré les animaux. Et puis, je suis devenu, comme tout le monde, ornithologue, hein, les oiseaux. Et ensuite, j'ai eu des enfants. Emmener des enfants voir des oiseaux, ça n'est pas possible parce que les enfants font du bruit et effrayent les volatiles. Alors j'ai choisi une autre espèce, une autre sorte d'animal. C'est tombé sur la libellule. C'est tombé un peu au hasard sur la libellule. Je me souviens très bien du jour où j'ai fait le choix de la libellule. Je me promenais, j'ai traversé un gué, il y avait des libellules et j'avais un appareil photo. Je les ai photographiés et je me suis dit, si ça donne quelque chose, eh bien, ce seront les libellules. Ça a donné quelque chose. En plus, il y a des avantages. Il n'y a que 160 espèces de libellules en Europe. Quand vous êtes dans une région quelconque, vous pouvez compter sur une trentaine d'espèces. Alors que si vous vous intéressez aux coléoptères, il y en a des milliers. Aux araignées, il y en a des milliers.
Voilà. Et alors pourquoi vous dites, à la fin du livre, alors que vous venez de nous démontrer le contraire, que le philosophe cherche à tuer le naturaliste en vous et vice-versa?
Mais d'abord parce que c'est très difficile d'avoir deux vocations. Et de les mener de front, ça n'est pas réellement possible. Ensuite, l'attitude d'esprit du naturaliste, c'est une attitude d'esprit de chasseur, de quelqu'un qui se tient aux aguets et qui cherche une présence. Trouver l'animal qu'il recherche. Voilà, c'est vraiment... Alors, c'est une ascèse, hein, c'est une forme de maîtrise de soi et de mobilisation de soi-même. Alors que le philosophe est également aux aguets, mais il est aux aguets d'une absence qui s'appelle l'idée. Et la présence doit venir des mots. Ce sont les mots qui rendent les idées présentes. Mais ce à quoi vous êtes attaché dans la philosophie, c'est une représentation du monde qui ne peut se donner qu'en l'absence du monde. Quand le monde est là, vous ne le pensez plus. Voilà, donc une antinomie qui fait que, effectivement, c'est vrai, je considérais que le temps que je passais sur le terrain était du temps perdu et que c'était un peu un truc de gosse, alors que j'aurais mieux fait de préparer mes cours et de corriger mes copies.
Oui, et en même temps, c'est l'occasion de ce que j'appellerais une rêverie philosophique à laquelle vous nous invitez. D'ailleurs, il y a des passages qui, on peut penser même à Rousseau dans Les rêveries du promeneur solitaire, il fait ça aussi, il dit d'une certaine façon qu'il ne fait plus de la philosophie puisqu'il est en train d'entrer dans une rêverie en communion avec la nature. C'est assez rousseauiste, donc c'est quand même pas antiphilosophique. C'est une autre façon de faire de la philosophie.
C'est une autre façon de faire de la philosophie. La comparaison est flatteuse, hein, vraiment. Merci. Mais c'est vrai que Rousseau est profondément un naturaliste. Plutôt un botaniste qu'un zoologiste, mais c'est un amoureux des êtres vivants. Et c'est vrai également que les rêveries sont une sorte d'ontologie. Il y a des passages métaphysiques, purement métaphysiques dans les rêveries qui entrent en résonance avec ce que l'on peut voir dans la nature et en particulier, alors chez lui, bien sûr, les plantes.
Non, je suis pas moi tout à fait finalement à l'aise avec cette séparation radicale que vous faites entre le naturaliste et le philosophe. Je crois qu'il y a pas mal d'exemples dans l'histoire de la philosophie de penseurs qui, parce qu'ils savaient rêver, parce qu'ils étaient un petit peu décalés justement dans leur mode habituel de pensée, de fonctionnement, de conscience, des inspirations jaillissent aussi qui vont nourrir leur pensée philosophique. On pense même au rêve de Descartes qui lui a inspiré la méthode. On pense à Montaigne, on pense même à Socrate qui était pris par son daimon et puis qui se mettait à philosopher. Est-ce que vous ne croyez pas au contraire qu'il peut y avoir des passerelles très très fécondes entre les moments où l'esprit se libère, n'est plus uniquement concentré sur le concept et puis ces moments où il va se ressaisir dans la concentration pour philosopher?
Alors je suis à la fois complètement d'accord avec vous et pas tout à fait, parce que les concepts, ça se rêve. Il faut commencer par rêver les concepts.
Ben oui, on
est entièrement d'accord. Ceux qui pensent qu'il y a une distinction radicale entre la métaphore et le concept, à mon avis, ne savent ni ce qu'est une métaphore, ni ce qu'est un concept. Mais c'est un passage de l'un à l'autre, et la rêverie est une activité profondément philosophique, mais pas du tout naturaliste. Le naturaliste est un être de la présence.
Oui, il est très concentré
sur ce qu'il observe. Il est très concentré, mais sur le réel, ici, présent. Et la moindre distraction fait qu'il ne voit pas ce qu'il aurait dû voir.
Je comprends.
Donc c'est là où l'antinomie se situe.
C'est pas la rêverie, c'est vraiment l'observation minutieuse de la nature.
Et puis, avec un enjeu qui est de voir. C'est pas si facile que ça, de trouver.
Et en même temps, ce que montre votre livre, c'est que l'observation des animaux, évidemment, c'est un thème ancien aussi, il nous enseigne beaucoup sur l'homme, sur le monde,
oui,
sur la vie.
Oui, bien sûr. L'observation des animaux est quelque chose de passionnant parce qu'ils sont tellement éloignés des hommes, quoi qu'on en dise, que finalement, ils finissent par parler de nous. Enfin, il y a une étrange parenté qui vient de ce qu'ils sont à la fois comme nous, est si différent de nous.
Alors, dites-nous en quoi la libellule nous parle de nous.
Elle nous parle de nous parce qu'elle s'envole et que les idées également s'envolent. Il y a, alors je ne parle pas le basque, mais mes enfants vivent au Pays basque et j'aime beaucoup le Pays basque. Et il y a, paraît-il, l'un des noms de la libellule en basque, c'est aiguille de la tête, chose de la tête. Et dire que la libellule est une chose de la tête, je le comprends comme ceci, les idées, ce sont des êtres qui nous quittent et non pas des êtres qui nous arrivent. Et c'est au moment où l'idée s'en va qu'il y a une espèce de vide qui se crée dans lequel nous pouvons parler ou écrire. Donc, il y a dans le monde animal, et en particulier dans le monde des libellules, quelque chose comme une métaphore fondamentale de ce que peut être l'écriture ou la pensée.
Et ce qui s'oppose fondamentalement à la continuité. Alors, vous citez un texte de Nietzsche. Alors c'est vrai que c'est particulièrement vrai dans l'image des libellules. Tous les animaux sont comme ça. Le texte de Nietzsche concerne tous les animaux. Je vais juste lire un petit extrait que vous citez dans votre livre. Mais c'est vrai que, d'une certaine façon, la libellule est tellement insaisissable, elle est tellement frêle dans son corps même, dans son être au monde, si je puis dire, que ça confirme plus particulièrement cette intuition de Nietzsche, donc, qui met l'animal dans l'oubli, alors que l'homme est cet être qui remplit les espaces vides de l'oubli. Simplement l'oubli d'être, l'oubli de ce qu'on a voulu, ce qu'on a été dans l'instant où on est précisément, et on n'est que cela. C'est un texte donc que vous citez et qui est extrait de la seconde considération intempestive. Alors c'est un texte que je ne connaissais pas du tout et que j'ai découvert sous votre plume, et c'est très, ça m'a beaucoup intéressée. Il arriva peut-être un jour à l'homme de demander à la bête: pourquoi ne me parles-tu pas de ton bonheur et pourquoi ne fais-tu que me regarder ? Et la bête voulut répondre et dire: cela vient de ce que j'oublie chaque fois ce que j'ai l'intention de répondre. Or, tandis qu'elle préparait cette réponse, elle l'avait déjà oubliée et elle se tut, en sorte que l'homme s'en étonna. Mais il s'étonna aussi de lui-même, parce qu'il ne pouvait pas apprendre à oublier et qu'il restait sans cesse accroché au passé. Quoi qu'il fasse, qu'il s'en aille courir au loin, j'ajouterais à la recherche des libellules, par exemple, qu'il hâte le pas, toujours la chaîne court avec lui. C'est une merveille. Le moment est là, en un clin d'œil, il disparaît. Avant, c'est le néant, après, c'est le néant. Mais le moment revient pour troubler le repos du moment à venir. Sans cesse, une page se détache du rôle du temps. Elle s'abat, va flotter au loin pour revenir, poussée sur les genoux de l'homme. Alors l'homme dit: je me souviens. Je ne sais pas si chez Nietzsche, le philosophe s'oppose au poète. En tout cas, je le trouve beaucoup plus poète que philosophe. Mais c'est vraiment votre propos.
Il est très grand poète et très grand philosophe. Et c'est exactement ça. Enfin, il y a une manière de vivre le présent chez les animaux qui est absolument bouleversante. Parce que leur regard ne reflète rien d'autre que leur regard. Rien d'autre. Et ça, on aimerait bien avoir ce style de présence de temps en temps. Mais nous sommes des êtres du souvenir. Alors la seconde intempestive est écrite par Nietzsche contre une certaine conception de l'histoire. Une certaine manière de réduire la philosophie, en particulier à l'histoire de la philosophie. En quoi, effectivement, la mémoire devient un fardeau, un poids énorme, qui fait que nous ne pouvons pas articuler un mot sans convoquer des bibliothèques entières, ce qui n'est peut-être pas, ce qui n'est sûrement pas le propos de la libellule, et ce qui n'est peut-être pas la manière la plus astucieuse de penser et de faire de la philosophie.
Oui, et c'est ça que j'ai le plus aimé, en fait, dans votre livre, c'est que vous partez, par exemple, du vol. De la forme des mandibules, de la forme de l'aile. Enfin, vous partez de tout petits détails et ça vous amène non pas à citer des tas de textes. Alors, j'ai cité Nietzsche, mais vous citez des auteurs, mais très très peu, de manière très parcimonieuse. Vous citez une phrase, quelques lignes, et vous montrez que ces quelques lignes de Spinoza, par exemple, chère à Frédéric, eh bien, si on est vraiment philosophe, il faut les penser en partant d'une expérience qui est justement radicalement non philosophique, puisque c'est une expérience de la présence.
Ah oui, 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 c'est très vrai ce que vous dites, parce que au fond, la philosophie consiste à intensifier le réel par les mots que nous employons, mais ce qui compte, c'est le réel. Et le moment où nous formulons des concepts, le moment où nous écrivons, c'est des moments de condensation de la réalité, juste à côté de la réalité. C'est pourquoi, me semble-t-il, on a le droit de ne citer que 3 ou 4 mots d'un auteur. Ce n'est pas du tout le trahir, à condition évidemment qu'on ait lu tout le reste. Mais il y a des espèces de nœuds, de points nodaux dans lesquels une pensée vient se cristalliser. Et c'est peut-être là le grand plaisir de la lecture philosophique, c'est de parvenir à quelques phrases qui, sorties de leur contexte, ne veulent rien dire, mais remises par l'esprit dans le contexte qui les a produits, sont des sortes de miroirs infiniment convexes qui reflètent l'intégralité de l'œuvre, l'intégralité de ce qu'on a compris dans la vie, etc.
Et oui, et ce qui est intéressant, c'est que c'est à partir de cette chose très fugace et légère que vous en... c'est à partir de l'observation de la libellule que vous en arrivez là. Comme si vous vous libériez de la pesanteur, comme si ça vous apprenait à vous libérer de la pesanteur.
C'est très... Il est très nécessaire d'avoir des extériorités absolues. L'intériorité est une grande chose, certes, mais il n'y a pas d'intériorité s'il n'y a pas une extériorité qui vient lui donner un contenu et qui vient l'appeler à autre chose qu'elle-même, ça je crois, vraiment. Et donc ces bestioles servent à ça, entre autres.
Finalement, vous citez beaucoup plus de poètes et vous citez Proust, enfin vous citez presque plus de poètes que de philosophes.
Eh bien, peut-être parce que certains poètes et certains écrivains sont de très très grands philosophes. Je tiens Marcel Proust pour un des plus grands philosophes qui n'ait jamais posé les pieds par terre, enfin, ou qui n'ait jamais tenu une plume.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel en compagnie ce matin d'Alain Cugnot et nous parlons de la libellule et du philosophe. Alors Alain Cugnot, vous citez, Lélie disait, tout un certain nombre d'auteurs qui, avec qui vous vous sentez proche, qui ont exprimé des vérités profondes que vous avez vous-même découvertes ou ressenties. Vous citez notamment Spinoza avec cette fameuse... phrase, je crois, du dernier livre de l'éthique, « Nous savons et nous expérimentons que nous sommes éternels ».
Est-ce que vous pouvez nous faire un petit commentaire de cette phrase ?
Ah oui, c'est quand même une des phrases les plus extraordinaires qui ait jamais été écrite. Parce que d'abord, c'est extrêmement difficile de traduire le latin de Spinoza à cet endroit-là, parce qu'on ne sait pas ce que veut dire exactement est-ce expérimenter, est-ce éprouver, est-ce savoir. C'est quelque chose de cet ordre-là.
C'est pas l'intuition, de toute façon.
C'est une forme d'intuition aussi.
Mais c'est une forme supérieure de connaissance chez Spinoza.
C'est vraiment quelque chose qui saisit l'être intégralement. Et bien, nous savons que nous sommes éternels, ce qui ne veut pas dire que nous ne mourrons pas, pas du tout, ce n'est absolument pas le propos de Spinoza, mais de dire, mais nous croisons l'éternité, enfin, nous vivons à la hauteur de l'éternité. Ce que nous pensons lorsque nous le pensons complètement, c'est quelque chose de tellement réel que ça nous détache des préoccupations de la mort, par exemple, entre autres. Et ça, quand même, c'est extrêmement puissant.
Est-ce que c'est quelque chose, par exemple, que vous avez éprouvé quand vous observez des animaux, que vous les photographiez, que vous êtes dans cette extrême présence à l'autre, au monde, on pourrait dire. Est-ce que vous avez l'impression que cet instant où vous voyez la libellule se poser ou s'envoler, vous vivez une expérience d'éternité ?
C'est une expérience d'éternité parce que c'est une expérience du don absolu. C'est ça qui donne un charme particulier aux animaux par opposition aux plantes. Les plantes sont là, elles ne bougent pas. Alors que les animaux sont mobiles, évidemment, et leur mobilité fait que vous n'êtes pas du tout sûr de les rencontrer. Donc si la libellule, disons, arrive et se pose près de vous, c'est comme si un don vous était fait. Et ce don, c'est le don même de la présence. Bref, c'est un étang, dirait Heidegger, mais c'est un étang qui dévoile l'être de l'étang, enfin, qui montre, même si ça se passe au bord de l'eau, et si
un jeu de mots
est facile, c'est vrai qu'il y a quelque chose de la donation absolue dans la présence de ce qui vient vers vous.
Oui, et d'ailleurs, vous expliquez, il y a quelque chose d'une gratuité et d'une apparente absurdité même dans cette gratuité. Vous dites que, par exemple, la libellule, avant d'être libellule, elle a une très très longue gestation sous l'eau, sous une forme assez vilaine, et qu'au fond, elle vit très peu de temps en comparaison avec cette gestation. C'est étrange, la nature, quand même.
Elle peut passer 5 ans dans l'eau.
C'est ça, c'est extraordinaire.
5 ans. Ça, c'est vrai de quelques grosses libellules. Et ensuite, émerger et puis vivre quelques semaines. C'est d'ailleurs ce qui a donné lieu, ça a été l'acte de naissance de ce livre. Et je dînais chez Jean-Claude Guillebeau et je lui racontais la vie d'une libellule dont il ignorait tout. Et je lui ai dit, méfie-toi, ça n'est pas parce que la libellule se trouve au paradis. Enfin, elle a vécu une vie de larve, elle a vécu dans la boue. Elle sort, elle s'aperçoit qu'on peut voler.
Quelle métaphore !
Elle découvre la sexualité. Elle se dit non seulement le paradis existe, mais il est encore infiniment plus beau que je ne l'imaginais. Et crac, elle meurt. Donc je disais à Jean-Claude, méfie-toi, ce n'est pas parce que tu entres dans le paradis que ça veut dire que ça va durer longtemps. Donc c'était un peu une plaisanterie, enfin à demi, et le lendemain Jean-Claude m'a téléphoné en me disant « Mais pourquoi tu n'écris pas un livre qui s'appellerait « La libellule et les philosophes » ?» Donc c'est vraiment cette histoire de passer 5 ans contre 3 semaines où on s'éclate totalement, c'est ce qui a donné naissance à ce livre.
Mais en même temps, vous venez de nous dire que les 3 semaines où on s'éclate, ce sont des moments d'éternité.
Donc, ce sont des moments d'éternité.
Ça dépend comment on voit les choses. Voilà.
C'est l'éternité.
Et en fait, en vous lisant, alors vous avez un très très beau chapitre sur le vol des libellules et ce que vous enseigne ce vol, qui est précisément, qui me rappelle un peu Valérie, vous savez, cette flèche qui vole et pourtant ne vole pas, enfin qui va très vite et qui est là et qui s'en va. La libellule, c'est toujours ce qui est là et en même temps ce qui s'en va, etc. Mais ça m'a fait penser à un poème de Saint John Perse, que je crois que nous n'avons jamais cité en fait dans cette émission, donc il était quand même grand temps que ça arrive. En l'occurrence, il exprime poétiquement ce que vous exprimez en prose dans votre dans votre livre. Mais c'est vraiment, ça suit vraiment votre méditation sur le vol des libellules. Ça concerne le vol des oiseaux. C'est cet extrait de l'ouvrage qui s'appelle Oiseaux, du recueil qui s'appelle Oiseaux au pluriel. Mais en fait, de fait, c'est le même mouvement. Gratitude du vol. Ceux-ci en firent leur délice. Sur toute mesure du temps loisible et de l'espace délectable, ils étendent leur loisir et leur délectation. Oiseaux du plus long jour et du plus long grief. Plus qu'ils ne volent, ils viennent à part entière aux délices de l'être. Oiseaux du plus long jour et du plus long propos, avec leur fond de nouveau-né ou de dauphin des fables. Ils passent, c'est durer, ou croisent, c'est régner. Oiseaux du plus long jour et du plus long désir, l'espace nourricier leur ouvre son épaisseur charnelle et leur maturité s'éveille au lit même du vent. Longue jouissance et long mutisme, nul sifflement là-haut, de fronde ni de faux. Ils naviguaient déjà tout feu éteint quand descendit sur eux la surdité des dieux. Et qui donc sut jamais si sous la triple paupière aux teintes ardoisées, l'ivresse ou l'affre du plaisir leur tenait l'œil mi-clos, effusion faite permanence et l'immersion totale.
C'est magnifique, mais c'est terriblement un oiseau. Il y a des parentés avec la libellule, mais c'est très différent du vol de la libellule et de la description. C'est vraiment, moi je pense à un martinet genre d'oiseau. Et c'est extraordinaire cette description. Alors, ce qu'il y a de commun avec la libellule, c'est cette inscription dans le temps par le départ.
C'est ça,
Vraiment, c'est quelque chose de commun. Autrement, les références à la triple paupière, par exemple, est tellement belle.
Ah oui, ça,
bien
sûr, oui.
Les libellules sont condamnées à garder les yeux vraiment ouverts.
Oui.
Puisque ces énormes yeux qui font toute la tête, qui mange toute la tête, et qui sont des instruments formidables pour enregistrer tout ce qui passe à proximité et qui peut être mangé, les petits insectes qui peuvent être mangés. Et leur vol, c'est un vol comme celui du martinet où on s'abandonne au lit du vent, mais c'est aussi un vol entièrement maîtrisé. C'est le seul insecte qui a les quatre ailes reliées à des muscles spécifiques. Les mouches font vibrer leur carapace du thorax pour faire bouger les ailes. Alors que les libellules, qui sont pourtant des insectes très anciens, très archaïques, sont capables de faire bouger une aile dans un sens et une autre dans l'autre sens. D'où des vols stationnaires, des vols en marche arrière, des virages absolument vertigineux. C'est une machine à voler extraordinaire.
C'est l'hélicoptère, en fait.
C'est l'hélicoptère. C'est un hélicoptère capable d'accélération fulgurante. Enfin, c'est prodigieux.
Alors, parlez-nous de la sexualité des libellules, parce que vous avez évoqué tout à l'heure l'idée qu'elle était très joyeuse. Mais est-ce qu'elle est comme celle des bonobos, c'est-à-dire finalement pas forcément reliée à la reproduction, ou est-ce qu'elle est toujours reliée à la reproduction?
Elle est reliée à la reproduction, parce que ce temps merveilleux du vol est très bref. Et il a une seule finalité, c'est assurer la génération suivante, puisque les libellules ne vivent qu'une génération, enfin qu'une saison. Donc après, il faut qu'il y ait de nouvelles libellules. Et alors, les libellules se bagarrent, mais férocement, se chassent les unes les autres, pour pouvoir s'accoupler avec une femelle, et l'accompagner en général, pas toujours, mais enfin, le mâle accompagne la femelle, la surveille pendant qu'elle pond pour la protéger des autres libellules.
Donc il y a des couples qui se forment.
Il y a des couples qui se forment. Mais alors c'est très compliqué. Les organes génitaux sont au bout de l'abdomen, chez le mâle, et il dépose le sperme sous son thorax, pratiquement, au deuxième segment de l'abdomen, mais c'est pratiquement sous le thorax. Ensuite, il courtise une femelle qui commence par dire non, puis finalement elle dit oui. Et le mâle l'attrape avec la pince qui est au bout de son abdomen, l'attrape immédiatement derrière la tête. Et il s'envole en tandem. La femelle replie son abdomen et vient placer ses propres pièces sexuelles contre le deuxième segment du mâle. Et ça forme à ce moment-là un cœur. et ils volent ensemble pendant le temps de la fécondation. Et donc, c'est extraordinaire.
Ça dure combien de temps, l'accouplement ?
Oh, ça peut durer quelques heures. Ça peut durer quelques heures. C'est assez long. Et donc, le moment de l'accouplement est un moment qui n'évoque pas du tout la sexualité. Qui n'évoque pas du tout la sexualité. Alors que chez tous les autres animaux, il y a quelque chose du spasme qui rappelle la sexualité humaine. Le moment qui rappelle la sexualité, c'est le moment de la ponte chez la femelle. Là, elle est comme hors d'elle et elle a des mouvements incontrôlés de l'abdomen qui rappellent les mouvements de la sexualité chez les mammifères.
Et le moment de l'accouplement, il évoque quoi alors ? Comme une sorte de ballet comme...
Une sorte de ballet, une sorte de moment extrêmement
de
calme
danse,
finalement. Les deux bêtes ne font rien d'autre que de voler. Il n'y a pas de mouvement d'un corps par rapport à l'autre. Et donc, ce n'est pas du tout érotique, ni pornographique. C'est beau. C'est beau et ça dessine une figure qui est quand même assez exceptionnelle de ces deux corps qui forment un cœur avec des ailes.
Et vous en avez photographié ?
Ah oui, c'est pas difficile de les photographier à ce moment-là. C'est beaucoup plus difficile de les photographier quand elles volent pour leur propre compte que quand elles sont accouplées. Et ce moment de l'accouplement, il est le moment... Le point final, le sommet de ce que les libellules ont à vivre.
C'est-à-dire qu'après, elles meurent assez vite après.
Elles meurent assez rapidement. Elles meurent assez rapidement.
Et ensuite, que deviennent ? Alors, c'est des œufs qui...
Ce sont des œufs qui ont été donc pondus. Alors, il y a différentes modalités, ça dépend des espèces. Mais en gros, et généralement, l'œuf se retrouve dans l'eau, puis sort une petite larve qui va connaître une croissance comme n'importe quelle larve d'insecte. On dirait une machine de guerre. Enfin, c'est épouvantable. C'est terrible, une larve de libellule avec un masque qui se tient replié sous la tête et qui se déplie avec des crochets au bout pour attraper les proies, les têtards, les petits poissons. Et elle va vivre dans la vase comme ça.
Ah oui, vous en faites une description terrifiante. Alors, ces jolies libellules qu'on voit dans les airs, c'est...
Alors, oui,
dans la phase de gestation, c'est des monstres.
C'est des sortes de monstres. Alors, les odonatologues, j'ai quand même réussi à le dire presque d'un seul coup. Quand on leur dit que les larves de libellules sont laides, ils disent « mais non, elles sont très belles », avec la mauvaise foi qui caractérise les gens passionnés par quelque chose. Mais on ne peut pas dire que les larves de libellules soient belles. Ou alors un AMX-30, un tank, est beau. On peut avoir des avis là-dessus.
Alors, de cette beauté, de cette contemplation, de cette étude que vous avez faite des libellules, est-ce que vous tirez des considérations, je ne dirais pas jusqu'à dire mystiques, mais enfin métaphysiques, sur la création du monde ? Est-ce que, comme l'émerveillement d'un Aristote ou avant lui de Platon devant l'harmonie extraordinaire du cosmos, que ce soit le microcosme ou le macrocosme, est-ce que ça vous amène à penser au créateur de cette harmonie si extraordinairement orchestrée quand même ?
Eh bien, oui et non. Je pense que lorsqu'on est en train d'observer, mettons, les libellules et de les admirer, de les trouver belles, et de les considérer comme une sorte de signe d'un langage que nous n'entendons pas, comme des mots d'une langue inconnue, et qui n'a pas de traduction possible, parce que, voilà, c'est là. Je pense qu'à ce moment-là, l'idée d'un créateur est totalement absente, et qu'on peut essayer de penser la libellule comme don. Elle se donne comme don, mais il n'y a pas de donateur. Il n'y a pas de donateur. Ce qui ne veut pas dire que la création n'est pas pensable comme ayant été faite par un dieu. Ce qui ne veut absolument pas dire même qu'on puisse faire une mystique à partir des insectes. Mais je pense que dans la présentation même de la nature, il n'y a pas cette présence de Dieu. Dieu est d'un autre ordre. Il est de l'ordre du langage. Alors, il y a bien un langage, mais intraduisible, alors que tout langage humain peut être traduit. Je pense que c'est ça.
C'est quoi le langage des libellules, en fait? Elles communiquent comment?
La communication entre les libellules, c'est un système de signaux pour dire « je suis le plus beau et j'aimerais te séduire voilà. ».
C'est entièrement axé autour de la reproduction. Donc,
c'est entièrement axé autour de la reproduction.
Elles n'ont pas d'autres formes de communication?
Non, il n'y a pas comme, il n'y a pas de système complexe comme chez les abeilles ou même... du moins à ma connaissance, peut-être qu'un jour on dira ben, « détrompez-vous », elle communique, mais ça semble très très peu vraisemblable. Le temps est tellement bref, et c'est même étonnant qu'elle se nourrisse, si vous voulez, parce qu'elle pourrait ne pas se nourrir. Il y a les insectes qui se reproduisent, qui se nourrissent quand ils sont à l'état larvaire, et puis qui, une fois devenus adultes, une fois devenus imagos, ne se nourrissent pas parce que c'est pas la peine, ça durera si peu de temps. Là, les libellules se nourrissent, mais en fait, leur seule activité, c'est la reproduction. Leur seul mode de communication, c'est faire peur aux adversaires et aux rivaux et séduire les femelles.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel en compagnie ce matin d'Alain Cugnot. Nous parlons de libellules et de philosophie. Lélie.
Oui, alors je ne voudrais pas vous lâcher en si bon chemin sur la question du créateur, parce que vous citez quand même un certain nombre d'auteurs, alors certes qui ne parlent pas de Dieu dans le sens le Dieu créateur des monothéismes tels qu'ils se déploient dans la Bible ou dans le Coran, mais néanmoins, beaucoup de vos pages m'ont fait penser à votre corps défendant, si je puis dire, au Timée de Platon, qui est quand même un texte très curieux sur ce côté démiurgique d'un dieu qui aurait créé l'univers et dans lequel le microcosme est le reflet du macrocosme et que tout ce qui est, au fond, dans son harmonie la plus profonde, témoigne d'une intelligence ordonnatrice. Alors, je ne parle pas du dieu, évidemment, de la Bible, mais enfin d'une sorte d'intelligence ordonnatrice qui fait que toutes ces choses se reproduisent et se font avec ce côté un peu miraculeux. Vous parlez quand même très souvent du côté miraculeux de ce que vous regardez en voyant les libellules. Et ça m'a fait penser, après j'attendrai évidemment votre commentaire de ce texte, ça m'a fait penser à quelque chose qui n'est absolument pas dans la tradition dans laquelle vous évoluez dans votre livre, mais à un texte de l'imam Ali, qui est donc un texte du 7e siècle. L'imam Ali, c'est le gendre et cousin du prophète Mohammed. Il a été le 4e calife, et qui est donc le fondateur, enfin disons, on peut dire le fondateur du chiisme. Mais ce n'est pas ça qui est important, c'est juste pour le situer que je dis ça. Ce qui est important, c'est qu'on a parlé du langage tout à l'heure, et que l'imam Ali est reconnu pour être le grand maître de l'éloquence arabe. Donc ça se passe tout ça au 7e siècle. Et s'inspirant d'ailleurs d'un verset coranique, d'une sourate coranique qui s'appelle Les Fourmis, voici ce qu'il dit dans l'un de ses sermons. Alors ça ne concerne pas les libellules, j'ai trouvé très peu de textes sur les libellules, je dois vous avouer. Ça concerne la fourmi, mais il y a quand même des ressemblances, vous allez voir. Et puis après, vous me direz ce que vous pensez de son raisonnement, qui, ma foi, est un raisonnement extraordinairement classique, hein, de remonter de la créature vers le créateur. Ne contemple-t-il pas ces créatures minuscules? Il a bien parfait les composantes de son œuvre, l'ayant doué de vue, d'ouïe, en modelant les os et la peau. Observez la fourmi dans la modestie de sa taille, la délicatesse de ses mouvements. Elle passe à peine perceptible par le regard et à peine attire l'attention. Regardez comment elle se déplace lentement et s'active à la recherche de sa nourriture, traînant la graine à sa loge, la déposant à son endroit. Elle rassemble sa nourriture en saison chaude pour s'en servir en saison froide et effectue des randonnées pour garantir son repos. Le bienfaiteur ne la perd pas de vue et Dieu ne la prive pas de ses besoins selon sa nature, fût-elle sur le rocher aride ou sur la pierre lisse. Si tu réfléchissais un instant sur ses entrailles et sur ses organes, sur sa taille et sa petitesse, sur sa tête et ce qu'elle peut porter comme yeux et oreilles, tu serais émerveillé par sa création et sa description te paraîtrait ardue. Gloire à celui qui l'a dressée sur ses pattes et l'a soutenue sur ses membres. Celui-là se distingue dans son œuvre sans assistance aucune. À force de pousser son raisonnement jusqu'au bout, l'homme aboutira à la conclusion que la fourmi et le palmier ont le même créateur. Car la perfection de l'œuvre est partout, partout la même, bien que difficile à saisir, dans ses détails. Le grandiose comme le délicat, le lourd comme le léger, le puissant comme le faible, tous ont le même créateur. Alors c'est traduit de l'arabe et c'est un peu dommage parce que l'arabe est vraiment magnifique. Mais bon, je ne vais pas lire en arabe à l'antenne, à l'inquiétude.
Oh, c'est un texte magnifique et qui n'est pas du tout étranger à ma tradition. Hein. On trouverait chez Maître Eckhart des choses très proches. Quand Maître Eckhart dit « On m'a toujours demandé pourquoi un brin d'herbe était si différent d'un autre », et moi je dis « Mais pourquoi est-il si semblable ?» à un autre. Donc c'est la même intuition, de même qu'on retrouverait des parentés avec l'articulation entre être et étant chez Heidegger. Il prend des choses beaucoup moins poétiques, le morceau de craie, je crois, et puis le bâtiment du lycée, mais c'est la même intuition. Et alors, ce texte vraiment très très beau, vraiment magnifique, eh bien il a été écrit par quelqu'un qui n'était pas en train d'observer les fourmis, mais qui se souvenait qu'il avait vu des fourmis. Oui. Et au moment où vous écrivez sur les fourmis ou sur les libellules, c'est également ce que fait Leibniz, au moment où vous écrivez sur cette capacité qu'ont ces petits êtres d'être de pure merveille et même de pur miracle, à ce moment-là, vous êtes dans un autre horizon que celui de l'observation. Vous êtes dans le champ de la pensée. Et là, dans le champ de la pensée, l'idée du créateur vous vient. Et l'idée qu'il y a une intelligence qui se manifeste à travers cela, c'est une idée, mais c'est une idée. Ce n'est pas une libellule en train de voler.
Oui, bien sûr. Et alors, c'est là que se dessine, je pense, quelque chose de très très fin dans ce que vous dites. Alors, vous ne le dites pas à nouveau très explicitement, mais c'est un fil qui est là tout au long du texte. C'est que en fait, le naturalisme est une activité occidentale qui est très liée aux Lumières. C'est-à-dire que ça commence évidemment au XVIIe siècle, cette passion pour les collections, c'est là que après c'est Linné qui va faire ça pour les plantes, etc. Donc cette façon de vouloir catégoriser le réel scientifiquement, d'en rendre compte de manière très scientifique. Donc voilà, dire voilà, c'est comme ça, c'est comme ça.
Ça commence avec Aristote quand même.
Oui, non, mais je veux dire l'activité qu'on a appelée vraiment l'activité du naturalisme dans le sens où on l'entend aujourd'hui, si je ne m'abuse, c'est quand même un travail encyclopédique qui est très lié aux Lumières et au travail de vouloir ramener en fait le réel à des catégories définissables scientifiquement, organiser le réel, en oubliant que finalement le réel est déjà extraordinairement organisé. Simplement, ils retrouvent par la voie scientifique une manière d'en rendre compte. Et que c'est en même temps qu'on va mettre en doute précisément toute la dimension spirituelle. Et les deux vont être ensemble et vous faites presque un mouvement inverse. C'est-à-dire que vous nous montrez qu'on peut avoir cette activité de catégoriser, d'être dans une science sans perdre le sens du miracle qui est quand même de l'ordre de l'invisible. Je ne sais pas si je me fais comprendre.
Ah oui, mais
vous voyez,
oui.
On sent que chez vous, qu'il y a ce mouvement à la fois très scientifique, mais qui aboutit sur quelque chose de très poétique. C'est très étrange, c'est très paradoxal.
Mais c'est très intéressant ce que vous dites là, parce que effectivement, le mouvement par lequel la classification se fait. Et à partir d'elle, une certaine manière de saisir la réalité, ce mouvement est aussi le mouvement par lequel le monde est désenchanté.
Voilà.
Et c'est en même temps, c'est vraiment aussi quelque chose de considérable et dont on aurait tort de vouloir mener la critique. C'est très très bien qu'il en aille ainsi. Et je pense que les naturalistes, les vrais naturalistes de terrain, il n'y en a pas tant que ça, mais les vrais naturalistes de terrain, ils ont ce côté desséchant. Et ils recompensent ou ils réincarnent en allant sur le terrain. Car vraiment, le naturaliste est saisi par la beauté des choses qu'il observe. Mais l'idée d'accompagner ce mouvement de retour en faisant un texte, vous m'éclairez sur ma propre activité. Enfin, oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Une sorte de réenchantement, mais à partir du désenchantement, pas indépendamment du désenchantement, mais à partir de lui. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous donne comme savoir poétique le fait d'être capable de distinguer, de discerner les deux espèces de calopteryx qui vivent dans mon coin. Enfin, voilà.
Oui, et ça, c'est un peu... Je ne sais pas si c'est vrai. On m'avait raconté au temps de Lacan que Wittgenstein, avant de faire son cours de philosophie, avant, il faisait un cours de logique tellement ardu que la moitié de l'amphithéâtre se vidait. Et après, il disait, bon, maintenant, on va pouvoir faire de la philosophie. C'est un peu ça.
C'est un peu ça. C'est un peu ça, oui, oui.
Je ne sais pas si c'est vrai, cette histoire
moi non plus,
aussi.
Je ne sais pas. Mais...
En tout cas, c'est assez... ça oui, pourrait oui. être du Wittgenstein. Oui, ça, oui. Il serait capable d'une chose pareille.
Il serait capable.
Alors, vous dites que le mot qu'on emploie pour parler... Alors, arrêtez-moi si je dis des bêtises, hein, mais j'ai cru comprendre que c'est le mot imago que vous avez employé d'ailleurs tout à l'heure pour parler de l'état de l'insecte quand il est arrivé à sa maturité.
C'est ça.
Donc, c'est intéressant parce que même la science naturaliste a un rapport à la représentation. C'est-à-dire que c'est vraiment une image qui se donne à voir.
C'est l'image. C'est le modèle. C'est ce qui va être reproduit, finalement. Et donc, l'imago, c'est à la fois la perfection de l'apparaître ou de l'apparence, et puis c'est cet être qui est capable de se reproduire.
Alors, il y a d'ailleurs, dans votre livre, il y a des très belles images qui sont des... ce sont quoi? Des dessins, des photos redessinées, recolorées?
Oui, c'est ça. À l'origine... L'illustration devait être faite de mes photographies. Et avec beaucoup de sagesse, mon éditrice a dit « Mais non, les photos, ça c'est pas bien. Les photos et le texte, c'est pas bien. En revanche, les dessins, c'est quelque chose. »
C'est vrai que c'est très beau. Hein.
Et dès lors, a été décidé que c'est quand même un livre sur la photographie des libellules. Donc les photos sont présentes, elles sont présentes sous la forme de dessins qui les reproduisent. Et qui les reproduisent admirablement. C'est Christelle Hainaut qui a fait les dessins. C'était la première fois qu'elle dessinait des animaux. Au début, ça a été terrible parce qu'elle stylisait. Et pour un naturaliste, c'était épouvantable.
C'est un crime.
C'était un crime. C'est comme quelqu'un qui dessinerait un texte mais sans reproduire la forme des lettres. Et très rapidement, elle a compris de quoi il s'agissait. Elle a été un peu déçue d'ailleurs, parce qu'elle a eu l'impression que sa part de créativité était
diminuée.
Mise en berne. Et elle a fait ces dessins que je trouve mais admirables, parce qu'ils donnent ce que ne peut pas donner la photographie, une présence de ce qui est montré. C'est vraiment l'imago dans toute sa splendeur.
Et c'est vraiment une occasion pour vous de réfléchir sur ce que c'est que saisir une image, en fait, puisque vous êtes justement aussi photographe, qu'ici il y a des reproductions en dessin, et que ça s'appelle anime, et que c'est très éphémère, finalement. Vous la voyez passer, parfois vous la voyez passer tellement vite que vous n'avez même pas le temps de la photographier. Donc, c'est quoi être au monde par une image. Donc il y a vraiment une méditation très intéressante sur l'image. Et d'une certaine façon, on pourrait l'étendre à beaucoup de choses dans notre modernité, que cette présence par la fugacité de l'image.
Et oui, et la fugacité de l'image, ce qui est très intéressant avec la photographie, c'est qu'au moment où vous photographiez, vous ne savez pas ce que vous photographiez. J'ai une petite idée de la bestiole photographiée, mais il faut que je rentre à la maison et que je l'étudie de près pour savoir quelle espèce j'ai photographiée. Mais il n'y a pas que cela. Il y a que quand vous photographiez un insecte, souvent il y en a d'autres à côté. J'ai mis quelques mois à m'apercevoir que sur une photographie de libellule, en bas à droite, il y avait aussi une punaise qui se baladait. Et ça n'a l'air de rien. Mais c'est quelque chose que le dessin ou la peinture ne peuvent pas donner, c'est la certitude de la simultanéité. Il est absolument certain qu'au moment où la libellule était posée là, la punaise était posée à côté. Alors que vous auriez affaire à un dessin ou à une peinture, qu'est-ce qui vous prouve que le peintre ou le dessinateur ne l'a pas rajouté? Et ça, c'est prendre des vues sur le monde dont aucune mémoire ne peut se rendre responsable, en quelque sorte. Enfin, ça dépasse toute mémoire envisageable.
Bien, c'est là-dessus que nous allons clore cette émission, qui arrive déjà à son terme. Je rappelle votre livre là, qui sort en poche, en fait, aux éditions Espace Libre, Albin Michel, donc Alain Cugnot, La libellule et le philosophe. Et puis, cette nouveauté, là, ce dernier livre que vous venez de sortir, « Comment faut-il s'y prendre pour vivre ?» aux éditions L'Iconoclaste. Merci beaucoup.
Merci.
C'était Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Ambin.
La semaine prochaine, nous recevrons Alexis Génie pour parler de la foi dans tous les sens. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant 1000 jours. Très bon dimanche à tous. Oh.